From the conference center at Temple Square in Salt Lake.
Ici, le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous allez assister à la 180e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du tabernacle mormon.
This broadcast is furnished as a public.
Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.
President Dieter F. Uchtdorf,
Dieter F. Uchtdorf, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session.
Our dear brothers and sisters, we welcome.
Mes chers frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue cet après-midi à la cinquième et dernière session de la 180e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Thomas S. Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous adressons nos salutations et donnons notre bénédiction aux membres de l'Église et aux nombreux amis de partout qui suivent cette session à la radio, à la télévision, sur l'Internet ou par satellite. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du tabernacle sous la direction de Mac Wilberg et de Ryan Murphy avec Bonnie Goodliffe à l'orgue. Le chœur ouvrira cette session en chantant « Come Rejoice ». Ensuite, Lawrence E. Corbridge, des 70, fera la prière d'ouverture. Le chœur chantera ensuite « Brillante étoile, étoile du matin ».
Come rejoice, the King of glory. Our beloved and eternal Father in heaven.
Notre Père céleste, éternel et bien-aimé. Ton Fils nous a dit, viens et suis-moi. C'est, Père, dans ce but que nous nous sommes réunis ici, dans ce centre de conférence magnifique et dans les lieux de réunion et chapelles de par le monde. Et c'est dans ce but que nous nous souvenons de toi pour te rendre grâce. Nous te rendons grâce pour le royaume de Dieu, pour la vie et la mission de ton Fils, Jésus-Christ, sur la terre. Nous sommes reconnaissants pour l'expiation et la résurrection qu'il a accomplie, pour ses enseignements, pour son évangile. Nous sommes reconnaissants, Père Céleste, du rétablissement de ton Église et de ton royaume, et de tout ce qui a été mis en place pour la session de cette conférence. Pour les préparatifs de ce merveilleux édifice et pour les miracles de la communication. Nous reconnaissons cependant, Père Céleste, que tout cela ne fera de différence à moins que nous ne soyons bénis de ton esprit. Et nous te supplions donc, Père Céleste, que chacun d'entre nous puisse ressentir ta présence. Nous te prions que chaque personne présente puisse écouter et que, où que nous soyons, nous puissions entendre ta parole, et que chacun et tous, nous suivions ton Fils, qui est le seul moyen pour nous permettre de rentrer en ta présence. C'est notre prière, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre L. Tom Perry et David A. Bednar du Collège des Douze Apôtres. Après le discours de Frère Bednar, nous entendrons Larry R. Lawrence, des 70.
Il y a 25 ans, pour mon discours de la conférence générale, j'ai présenté une aide visuelle à côté de moi. C'est le plus âgé de mes petits-fils. Il venait de recevoir la prêtrise d'Aaron et avait été ordonné diacre. J'ai saisi l'occasion de lui adresser mon discours sur l'importance de recevoir la prêtrise d'Aaron. Je lui ai dit, je suis loin d'être satisfait de l'état de ce monde que les autres jeunes gens et toi allez hériter en devenant des hommes. Je crois que bien que nous, vos aînés, ayons été en âge et en mesure d'influencer le monde, nous avons manqué à nos devoirs envers vous en permettant la situation de ce monde de devenir ce qu'elle est. De ce fait, beaucoup de vos amis et connaissances n'ont pas été élevés dans la compréhension et le respect des valeurs traditionnelles. La pression du groupe devient donc beaucoup plus difficile, même extrême. Nous avons introduit chez nous des postes de radio, de télévision, des tourne-disques. Bien que chacun de ces appareils soit capable de procurer des amusements sains, beaucoup de ce qui a été produit pour notre plaisir auditif et visuel n'est pas de nature à inspirer et encourager les jeunes gens. En fait, la plus grande partie de cette production est dégradante. Le bouton que tu pousses chez toi peut détruire en toi le sens du bien et du mal. Plus les choses changent, plus elles restent les mêmes, à part pour la technologie. J'ai bien envie de demander aux jeunes gens à la prêtrise d'Aaron s'ils savent ce qu'est un tourne-disque. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quelque chose qui se trouvait dans le salon et qu'on mettait en marche pour écouter la musique. Vous imaginez, on devait aller dans le salon pour l'utiliser. On ne transportait pas partout avec nous. J'ai également donné à mon petit-fils, Terry, 4 leçons tirées d'histoire de Daniel, l'Ancien Testament. Je lui ai dit de garder son corps en bonne santé et propre. Deuxièmement, développer son intelligence et d'acquérir de la sagesse. Troisièmement, d'être fort et de résister à la tentation dans un monde qui en est rempli. Et quatrièmement, de faire confiance au Seigneur, particulièrement lorsqu'il aura besoin de sa protection. Je terminais mes conseils à Terry par ces mots. Ces histoires des Écritures ne vieilliront jamais. Elles seront tout aussi passionnantes que tu les liras en tant que diacre, instructeur, prêtre, missionnaire, instructeur au foyer, président d'un collège d'anciens, ou quelle que soit la paix que tu recevras du Seigneur. Elles t'enseigneront à avoir de la foi, du courage, de l'amour pour tes semblables, de l'assurance et la confiance au Seigneur. Je suis heureux d'annoncer que Terry était fidèle à la responsabilité que je lui ai donnée il y a 25 ans. Il a plus tard reçu la prêtrise de Melchizedek, a servi fidèlement en mission et est actuellement président d'un collège d'anciens. Il est aussi le père d'une magnifique fille. Beaucoup de choses ont changé ces 20 dernières années. L'une des choses qui se produit, c'est que beaucoup de mes petits-enfants ont grandi et ont eux aussi des enfants. Cet été, j'ai eu l'occasion d'être dans un cercle de détenteurs de la prêtrise et de poser les mains sur la tête de l'aîné de mes arrière-petits-fils. Lorsque son père lui a conféré la prêtrise d'Aaron, bien que mon arrière-petit-fils ne soit pas présent sur l'estrade à mes côtés aujourd'hui, je voudrais lui adresser mon discours, ainsi qu'à vous tous, jeunes gens merveilleux, qui détenez la prêtrise d'Aaron. C'est une bénédiction particulière de recevoir la prêtrise d'Aaron. L'histoire se souvient du jour glorieux où la prêtrise a été rétablie sur la terre, donnant aux hommes le droit d'agir de nouveau comme représentants de Dieu, en accomplissant les ordonnances sacrées de la prêtrise. Le 5 avril 1929, Oliver Cowdery arriva chez Joseph Smith à Harmony, en Pennsylvanie. Il posa des questions à Joseph Smith, le prophète, sur son travail de traduction de récits anciens, le Livre de Mormon. Convaincu de la nature divine de cette œuvre, Oliver accepta d'être secrétaire pour finir la traduction. La traduction progressa rapidement à partir de ce moment-là. Le 15 mai 1829, Joseph Oliver était déjà arrivé à Trois-Néphi. Il fut émerveillé par l'histoire de la visite du Sauveur ressuscité sur le continent américain et par ses enseignements sur le baptême. En lisant Trois-Néphi, ils commencèrent à se poser des questions sur le baptême. Quelle était la manière correcte de baptiser? Et qui avait l'autorité d'accomplir cette ordonnance salvatrice sacrée? Ils cherchaient la réponse à cette question doctrinale fondamentale. Ils résolurent de trouver la réponse par la prière. Ils allèrent dans un endroit près de là, sur les rives du fleuve Susquehanna. Ils épanchèrent leur cœur et les cieux s'ouvrirent à eux. Un ange apparut et se présenta comme étant Jean-Baptiste. Il leur dit qu'il agissait sous la direction de Pierre, Jacques et Jean, qui détenaient la prêtrise supérieure. Posant ses mains sur leur tête, il dit « À vous, mes compagnons de service, au nom du Messie, je confère la prêtrise d'Aaron, qui détient les clés du ministère d'ange, de l'évangile de repentir et du baptême par immersion pour la rémission des péchés. Et cela ne sera plus jamais enlevé de la terre, jusqu'à ce que les fils de Lévi fassent de nouveau une offrande au Seigneur selon la justice. » Plus tard, Oliver raconta cet événement en ces mots. Mais pense, réfléchis un moment à la joie qui emplit notre cœur, à la surprise avec laquelle nous nous agenouillâmes lorsque nous reçûmes de ses mains la sainte prêtrise. L'humanité avait attendu des siècles que l'autorité de Dieu soit rétablie. Et voici que le pouvoir et la gloire de la sainte prêtrise d'Aaron étaient de nouveau sur la terre. À la section 107 des Doctrines et Alliances, nous apprenons pourquoi la moindre prêtrise est appelée la prêtrise d'Aaron. La deuxième prêtrise est appelée la prêtrise d'Aaron parce qu'elle fut conférée à Adam, à Aaron et à sa postérité pendant toutes leurs générations. La raison pour laquelle on l'appelle la moindre prêtrise, c'est parce qu'elle est une annexe de la prêtrise supérieure ou prêtrise de Melchizedek et a le pouvoir d'administrer les ordonnances extérieures. Le pouvoir, l'autorité de la moindre prêtrise ou prêtrise d'Aaron est de détenir les clés du ministère d'ange et d'administrer les ordonnances extérieures. La lettre de l'Évangile, le baptême de repentir pour la rémission des péchés, conformément aux alliances et aux commandements. Non seulement les jeunes gens de la prêtrise d'Aaron reçoivent le pouvoir et l'autorité d'être représentants du Seigneur pour s'acquitter de leur responsabilité de la prêtrise, mais ils reçoivent également les clés du ministère d'ange. Jeunes gens, la prêtrise d'Aaron, je vous témoigne que le Seigneur est tenu par une alliance solennelle de vous bénir selon votre fidélité. Si vous écoutez la voix d'avertissement du Saint-Esprit et suivez ses directives, vous aurez la bénédiction d'avoir le ministère d'ange. Cette bénédiction vous permettra d'avoir plus de sagesse, de connaissance, de pouvoir, de gloire. Cette bénédiction qui vous est promise par le Seigneur est sûre. Il y a quelques mois, j'assistais à la réunion de jeûne et de témoignage d'une paroisse. L'une des personnes qui ont rendu témoignage était un consultant de collège de la prêtrise d'Aaron. Son témoignage m'a permis de mieux apprécier ce que signifie pour un détenteur de la prêtrise d'Aaron de détenir les clés du ministère d'ange. Ce consultant a décrit les expériences qu'il avait eues avec la prêtrise d'Aaron de la paroisse ce matin-là. En allant à pied à l'église, il avait remarqué deux jeunes diacres qui tenaient des enveloppes d'offrandes de jeûne et qui allaient chez les membres. Il avait été impressionné par leur tenue du dimanche et par la dignité calme avec laquelle ils s'acquittaient de leurs tâches. Il avait ensuite accompagné deux prêtres pour distribuer la Sainte-Seine dans une résidence pour hommes handicapés physiques et mentaux. C'était la première fois que ces deux jeunes gens se rendaient dans cette résidence. Et leur consultant avait remarqué le respect et le soin avec lesquels ils remplissaient leurs tâches dans la prêtrise. Le consultant a ensuite raconté une expérience qui l'avait profondément touché, car l'un des prêtres lui avait rappelé ce que signifie réellement être un vrai ministre de Jésus-Christ. Littéralement, un an chargé d'un ministère, le jeune prêtre qui distribuait l'eau à l'assemblée est arrivé près d'un homme qui, semble-t-il, était gravement handicapé par la trisomie 21. Il était impossible de prendre le gobelet du plateau et de boire. Le jeune prêtre a immédiatement évalué la situation. Il a mis sa main gauche derrière la tête de cet homme pour qu'il soit en position de boire. Et de la main droite, a pris un gobelet du plateau, puis l'a doucement porté à ses lèvres. Une expression de reconnaissance est apparue sur le visage de l'homme. L'expression de quelqu'un à qui l'on a apporté de l'aide. Ce jeune prêtre merveilleux a ensuite continué de remplir sa tâche, de distribuer l'eau bénie aux autres membres de l'assemblée. Le consultant a exprimé dans son témoignage les sentiments qu'il avait eus à ce moment attendrissant. Il a dit qu'il avait pleuré silencieusement de joie et qu'il savait que l'Église était de bonnes mains grâce à ces jeunes détenteurs de la prêtrise d'Aaron aimants et obéissants. Le président Benson a dit un jour, « Donnez-moi un jeune homme qui se soit gardé pur et qui a assisté fidèlement à ces réunions d'Église. Donnez-moi un jeune homme qui a honoré sa prêtrise et mérité la distinction du devoir envers Dieu et qui soit aigle scout. Donnez-moi un jeune homme qui a son diplôme du séminaire et qui est un témoignage ardent du Livre de Mormon. Donnez-moi ce genre de jeune homme et je vous donnerai un jeune homme qui pourra accomplir des miracles pour le Seigneur dans le champ de la mission et pendant toute sa vie. À vous, parents de ces magnifiques jeunes gens et jeunes filles, nous donnons la responsabilité sacrée d'enseigner à vos enfants la doctrine de la Sainte Prêtrise. Vos enfants doivent apprendre à un jeune âge ce que représente la bénédiction d'avoir la prêtrise éternelle du Seigneur et ce qu'ils doivent chacun faire pour mériter ces bénédictions. Évêques, vous avez les clés de la prêtrise pour être les dirigeants ecclésiastiques des jeunes gens de la prêtrise d'Aaron. Peut tenir conseil avec eux et leur enseigner leurs devoirs dans la prêtrise. Veuillez vous assurer que chaque jeune homme digne de recevoir la prêtrise d'Aaron comprend les obligations, les bénédictions qu'il a en sa qualité de détenteur de la prêtrise. Aidez-les à honorer la prêtrise maintenant, en leur donnant des tâches importantes et en les aidant à servir les autres. Jeunes gens, je vous lance le défi de fonder votre vie sur la vérité et la justice. C'est la seule fondation qui résistera aux pressions de cette vie et qui perdurera dans l'éternité. La prêtrise que vous détenez est un don spécial, car le donneur est le Seigneur lui-même. Utilisez-la, honorez-la et soyez-en digne. Je tiens à ce que vous sachiez que ce témoignage spécial et personnel est son pouvoir. Grâce à elle, j'ai reçu tant de bénédictions. Je vous lance également le défi de choisir aujourd'hui d'honorer cette grande bénédiction et de vous préparer à progresser dans chaque office de la prêtrise d'Aaron, diacre, instructeur et prêtre. Préparez-vous pour la grande bénédiction de recevoir la prêtrise de Melchizedek que vous devrez être digne de recevoir avant de faire une mission à plein temps. Le Seigneur a besoin que vous prépariez à être à son service, particulièrement pour la grande responsabilité que vous aurez de proclamer son évangile au monde. Je vous promets que si vous vous préparez à recevoir sa sainte prêtrise, il déversera littéralement des bénédictions sur votre tête. Je vous en rends témoignage. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.
Mon message porte sur l'importance de nous efforcer dans la vie quotidienne de recevoir réellement le Saint-Esprit. Je prie pour que l'Esprit du Seigneur instruise et édifie chacun de nous. En décembre 1839, tandis qu'ils étaient à Washington, D.C. pour demander réparation des torts infligés aux saints du Missouri, Joseph Smith et Elias Higbee écrivent à ce qui suit à Hiram Smith. Je cite, « Pendant notre entretien avec le président des États-Unis, il nous a interrogés sur la différence entre notre religion et les autres religions de notre époque. Frère Joseph a dit que nous étions différents par notre façon de baptiser et par le don du Saint-Esprit, par l'imposition des mains. Nous avons estimé que toutes les autres considérations étaient contenues dans le don du Saint-Esprit. » Fin de citation. Le Saint-Esprit est le troisième membre de la divinité. C'est un personnage d'esprit et il rend témoignage de la vérité. Dans les Écritures, le Saint-Esprit est appelé le Consolateur, un instructeur et un révélateur. Les révélations du Père et du Fils sont transmises par le Saint-Esprit. Il est le messager et le témoin du Père et du Fils. Le Saint-Esprit se manifeste aux hommes et aux femmes sur terre à la fois par le pouvoir et par le don du Saint-Esprit. Le pouvoir peut venir sur une personne avant le baptême. C'est le témoignage convaincant que Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Rédempteur. Par le pouvoir du Saint-Esprit, les amis de l'Église sincère peuvent être convaincus de la véracité de l'Évangile du Sauveur, du Livre de Mormon, de la réalité du rétablissement et de l'appel de prophète de Joseph Smith. Le don du Saint-Esprit est conféré par l'imposition des mains de ceux qui détiennent la prêtrise de Melchisédek, mais ce, uniquement, après un baptême correct et autorisé. Le Seigneur a déclaré, « Oui, repentez-vous tous et soyez tous baptisés pour la rémission de vos péchés. Oui, soyez baptisés d'eau, et alors viendra le baptême de feu et du Saint-Esprit. Quiconque aura la foi, vous le confirmerez dans mon Église par l'imposition des mains, et je lui conférerai le don du Saint-Esprit. » L'apôtre Paul a bien fait comprendre cette pratique aux Éphésiens lorsqu'il a demandé « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit « De quel baptême avez-vous donc été baptisé ?» Et ils répondirent « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Le baptême par immersion est la première ordonnance de l'Évangile et doit, pour être complet, être suivi du baptême de l'Esprit. Joseph Smith, le prophète, a expliqué que, je cite, « Le baptême est une sainte ordonnance qui prépare à recevoir le Saint-Esprit. C'est là le canal et la voie par lesquels sera administré le Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit par l'imposition des mains ne peut se recevoir en vertu d'aucun autre principe que celui de la justice. » Fin de citation. L'ordonnance par laquelle on confirme un nouveau membre de l'Église et lui confère le don du Saint-Esprit est à la fois simple et profonde. Des détenteurs de la prêtrise de Melchisédek digne posent les mains sur la tête de la personne et l'appellent par son nom. Puis, par l'autorité de la Sainte Prêtrise et au nom du Sauveur, la personne est confirmée membre de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, et cette phrase importante est prononcée. Recevez le Saint-Esprit. Frères et sœurs, la simplicité de cette ordonnance peut nous faire oublier son importance. Ces quatre mots, recevez le Saint-Esprit, ne sont pas une exhortation passive, mais constitue une injonction de la prêtrise, une exhortation faite avec autorité à agir et non à être mu. Le Saint-Esprit n'opère pas dans notre vie du simple fait que des mains sont posées sur notre tête et que ces quatre mots importants sont prononcés. Quand nous recevons cette ordonnance, nous acceptons la responsabilité sacrée et permanente de désirer, de rechercher, de travailler et de vivre de manière à effectivement recevoir le Saint-Esprit et les dons spirituels qui l'accompagnent. Car à quoi sert-il un homme qu'un don lui soit accordé s'il ne reçoit pas le don? Voici, il ne se réjouit pas de ce qui lui est donné, ni ne se réjouit de celui qui fait le don. Que devons-nous faire pour que cette exhortation faite avec autorité de rechercher la compagnie du troisième membre de la divinité devienne une réalité permanente? Je vous suggère que nous avons besoin de, premièrement, désirer sincèrement recevoir le Saint-Esprit. Deuxièmement, inviter comme il convient le Saint-Esprit dans notre vie. Et troisièmement, obéir fidèlement au commandement de Dieu. Nous devons d'abord désirer de tout notre cœur et rechercher la compagnie du Saint-Esprit. Nous pouvons, vous et moi, apprendre une grande leçon sur les justes aspirations de l'exemple des disciples fidèles du Maître décrit dans le livre de Mormon. Et le 12 instruisirent la multitude. Et voici, ils dirent à la multitude de s'agenouiller sur la surface de la terre et de prier le Père au nom de Jésus. Et ils prièrent pour ce qu'ils désiraient le plus. Et ils désiraient que le Saint-Esprit leur fût donné. Nous souvenons-nous, nous aussi, de prier avec ferveur et constamment pour ce que nous devrions désirer le plus, c'est-à-dire le Saint-Esprit? Ou sommes-nous, frères et sœurs, distraits par les soucis du monde et la routine quotidienne, et considérons-nous comme acquis, ou même négligeons-nous, le plus précieux de tous les dons? Recevoir le Saint-Esprit commence avec notre désir sincère et constant d'avoir sa compagnie dans notre vie. Nous recevons et reconnaissons plus facilement l'Esprit du Seigneur quand nous l'invitons comme il convient dans notre vie. Nous ne pouvons pas obliger, forcer ou commander le Saint-Esprit. Nous devons plutôt l'inviter dans notre vie avec la même douceur et la même tendresse avec lesquelles il nous supplie. Nous invitons de nombreuses façons le Saint-Esprit à nous accompagner, en contractant et en respectant des alliances, en priant sincèrement en privé et en famille, en sondant diligemment les Écritures, en fortifiant les bonnes relations avec notre famille et avec nos amis, en cherchant à avoir des pensées, des actions et un langage vertueux, en adorant Dieu dans notre foyer, au Saint-Temple et à l'Église. Par contre, la désinvolture vis-à-vis des alliances et des engagements ou leur violation, le fait de ne pas prier et de ne pas étudier les Écritures et les pensées, les actions ou un langage incorrect amène au contraire l'esprit à se retirer ou à nous éviter. Le roi Benjamin enseigna à son peuple. Et maintenant, je vous dis, mes frères, que si après avoir connu tout cela et en avoir été instruit, vous transgressez et allez à l'encontre de ce qui a été dit, vous vous retirez de l'Esprit du Seigneur pour qu'il n'ait pas de place en vous pour vous guider dans les sentiers de la sagesse, pour que vous soyez bénis, rendus prospères et préservés. Il est essentiel d'obéir fidèlement aux commandements si l'on veut recevoir le Saint-Esprit. Cette vérité se rappelle à nous chaque semaine quand nous écoutons les prières de Sainte-Cène et quand nous prenons dignement le pain et l'eau. Lorsque nous nous vous engageons à vouloir prendre sur nous le nom de Jésus-Christ, à nous souvenir toujours de lui et à respecter ses commandements, nous recevons la promesse que nous pourrons toujours avoir son esprit avec nous. Ainsi, tout ce que l'Évangile du Sauveur nous enseigne de faire et de devenir a pour but de nous apporter la bénédiction de la compagnie du Saint-Esprit. Réfléchissez aux raisons pour lesquelles nous prions et étudions les Écritures. Oui, nous aspirons à communiquer dans la prière avec notre Père Céleste au nom de son Fils. Et oui, nous désirons obtenir la lumière et la connaissance disponibles dans les ouvrages canoniques. Mais n'oubliez pas que ces habitudes sacrées sont essentiellement des moyens par lesquels nous nous souvenons toujours de notre Père Céleste et de son Fils bien-aimé, et qu'elles sont requises pour avoir la compagnie constante du Saint-Esprit. Pensez aux raisons pour lesquelles nous nous livrons au culte dans la maison du Seigneur et lors de nos réunions du sabbat. Oui, nous servons nos ancêtres décédés au temple, et notre famille et nos amis dans les paroisses et dans les branches où nous vivons. Et oui, Nous prenons plaisir à fréquenter nos frères et nos sœurs qui sont des personnes justes. Mais nous nous assemblons dans l'unité avant tout pour rechercher les bénédictions et les enseignements du Saint-Esprit. La prière, l'étude, les réunions, le culte, le service et l'obéissance ne sont pas des éléments isolés ou indépendants figurant sur une liste de tâches d'évangile à effectuer. En fait, chacune de ces pratiques justes est un élément important d'une quête spirituelle globale pour répondre au commandement de recevoir le Saint-Esprit. Les commandements de Dieu auxquels nous obéissons et les conseils inspirés de nos dirigeants de la prêtrise que nous suivons se concentrent principalement sur l'obtention de la compagnie de l'Esprit. Tous les enseignements et toutes les activités de l'Évangile sont fondamentalement centrés sur la réception du Saint-Esprit dans notre vie. Nous devons, vous et moi, nous efforcer de devenir comme les jeunes guerriers décrits dans le livre de Mormon qui s'appliquèrent à accomplir avec exactitude chaque commandement. Oui, il leur fut fait selon leur foi, et dont il est dit, ils sont stricts à se souvenir de jour en jour du Seigneur leur Dieu. Oui, ils s'appliquent à garder continuellement ses lois et ses ordonnances et ses commandements. Le Seigneur a déclaré que l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est la seule Église vraie et vivante sur toute la surface de la terre. Cette Église rétablie est vraie parce que c'est l'Église du Sauveur. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est une Église vivante du fait de l'inspiration et des dons du Saint-Esprit. Nous sommes grandement bénis de vivre à une époque où la prêtrise est sur la terre et où nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Plusieurs années après son martyre, Joseph Smith, le prophète, est apparu à Brigham Young et lui a remis ce message intemporel, je cite, « Dites au peuple d'être humble et fidèle et de veiller à garder l'Esprit du Seigneur, et celui-ci le conduira sur la bonne voie. Faites attention à ne pas rejeter le murmure doux et léger. Il enseignera ce qu'ils doivent faire et où ils doivent aller. Il produira les fruits du royaume. Dites aux frères de garder leur cœur ouvert à la conviction, afin que lorsque le Saint-Esprit viendra à eux, leur cœur soit prêt à le recevoir. Il peut faire la différence entre l'Esprit du Seigneur et tous les autres esprits. Il insuffle la paix et la joie à leur âme. Il ôte la méchanceté, la haine, la convoitise, l'esprit de querelle et tout mal de leur cœur, et leur seul désir sera de faire le bien, de susciter la justice et d'édifier le royaume de Dieu. Dites aux frères que s'ils suivent l'Esprit du Seigneur, ils iront sur le bon chemin. » Fin de citation. Je prie pour que nous désirions sincèrement et invitions comme il convient le Saint-Esprit dans notre vie quotidienne. Je prie aussi pour que chacun de nous obéisse fidèlement au commandement de Dieu et reçoive réellement le Saint-Esprit. Je promets que les bénédictions décrites par Joseph Smith, le prophète, à Brigham Young, s'adressent et sont accessibles à chaque personne qui entend ou lit ce discours. Je rends témoignage que le Père et le Fils sont réels et vivants. Je témoigne que le Saint-Esprit est un révélateur, un consolateur et l'instructeur suprême auprès duquel nous devons tous apprendre. Et je témoigne que les bénédictions et les dons de l'Esprit sont présents dans l'Église rétablie, vraie et vivante de Jésus-Christ dans ces derniers jours. Je rends témoignage de cela. Au nom sacré du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Aujourd'hui, je vais parler aux parents d'adolescents. Vos jeunes intelligents et énergiques sont l'avenir de l'Église. Et pour cette raison, ils sont des cibles privilégiées de l'adversaire. Beaucoup d'entre vous, mères et pères fidèles, écoutez la conférence aujourd'hui en priant pour avoir des réponses qui vous aideront à guider vos enfants pendant ces années importantes. Les plus âgés de mes petits-enfants viennent d'entrer dans l'adolescence. Ce sujet me touche donc de très près. Il n'y a pas de parents parfaits, ni de réponses faciles, mais il y a des principes de vérité sur lesquels nous pouvons compter. Le thème des activités d'échange des jeunes gens et des jeunes filles pour l'année 2010 est tiré du livre de Josué. Il commence ainsi. Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point. Cette expression tirée des Écritures serait un bon thème pour les parents aussi. En ces derniers jours, ce dont le monde a vraiment besoin, c'est de mères et de pères qui élèvent leurs enfants avec courage et qui n'ont pas peur de parler franchement et de prendre position. Imaginez un instant que votre fille soit assise sur des voies de chemin de fer et que vous entendiez le train siffler. Est-ce que vous l'avertiriez pour qu'elle parte des voies? Ou est-ce que vous hésiteriez, de peur qu'elle vous trouve trop protecteur? Si elle n'écoutait pas votre avertissement, la mettriez-vous rapidement en lieu sûr? Bien sûr que oui. Votre amour pour votre fille l'emporterait sur toute autre considération. Sa vie aurait plus de valeur pour vous que sa bonne volonté temporaire à votre égard. Les difficultés et les tentations font sur nos adolescents avec la vitesse et la force d'un train de marchandises. Comme nous le rappelle la Déclaration sur la famille, les parents ont la responsabilité de protéger leurs enfants. Cela veut dire spirituellement aussi bien que physiquement. Dans le livre de Mormon, on trouve un passage où Alma, le jeune, conseille son fils égaré. Corianton avait commis des fautes graves lorsqu'il était en mission parmi les Oramites. Alma l'aimait assez pour lui parler du problème avec beaucoup de franchise. Il a dit à son fils qu'il était profondément déçu que ce dernier commit l'immoralité et lui a expliqué les conséquences graves du péché. Les paroles courage suivantes d'Alma m'inspirent chaque fois que je les lis. Et maintenant, l'Esprit du Seigneur me dit, « Commande à tes enfants de faire le bien. C'est pourquoi je te commande, mon fils, dans la crainte de Dieu, de t'abstenir de tes iniquités. » Cette intervention rapide de son père marque un tournant dans la vie de Corianton. Il s'est repenti et a servi fidèlement par la suite. Comparez l'exemple d'Alma avec celui d'un autre père dans les Écritures, Élie, dans l'Ancien Testament. Il était souverain sacrificateur en Israël à l'époque du prophète Samuel. Les Écritures expliquent que le Seigneur l'a sévèrement réprimandé parce que ses fils s'étaient rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Les fils d'Élie ne se sont jamais repentis et tout Israël a souffert à cause de leur folie. L'histoire d'Élie nous apprend que les parents qui aiment leurs enfants ne peuvent pas se permettre d'être intimidés par eux. Il y a plusieurs années, lors de la conférence générale, Joe J. Christensen nous a rappelé « Être parent, ce n'est pas chercher à être en tête des sondages de popularité. » Dans le même esprit, Elder Robert D. Hales a fait observer « Parfois, nous avons peur de nos enfants, peur de les conseiller par crainte de les offenser. » Il y a des années, notre fils de 17 ans voulait partir en week-end avec ses amis, qui étaient tous de bons garçons. Il a demandé la permission d'y aller. J'ai voulu dire oui, mais pour une raison que j'ignore, j'étais mal à l'aise par rapport à cette excursion. J'en ai parlé à ma femme, qui s'est montrée d'un grand soutien. Elle m'a dit, tu dois écouter cette voix d'avertissement. Notre fils a bien sûr été déçu et il a demandé pourquoi nous ne voulions pas qu'il y aille. J'ai répondu honnêtement que je ne savais pas. J'ai expliqué, c'est simplement que cela me met mal à l'aise et je t'aime trop pour ne pas prêter attention à ce genre de sentiment. J'étais très surpris quand il a répondu, c'est pas grave papa, je comprends. Les jeunes comprennent plus que nous ne le supposons, car eux aussi ont le don du Saint-Esprit. Ils essayent de reconnaître l'Esprit quand ils parlent et ils observent notre exemple. Ils apprennent grâce à nous à prêter attention à l'inspiration qu'ils reçoivent pour savoir que si quelque chose les met mal à l'aise, il vaut mieux ne pas le faire. Il est très important que le mari et la femme soient unis lorsqu'ils prennent des décisions au sujet de leurs enfants. Si quelque chose met l'un des parents mal à l'aise, la permission ne doit pas être accordée. Si l'un d'eux est mal à l'aise concernant un film, une émission de télévision, un jeu vidéo, une fête, une tenue, un maillot de bain ou une activité sur Internet, que l'autre conjoint ait le courage de le soutenir et de dire non. Je vais vous lire la lettre d'une mère qui a le cœur brisé. Son fils adolescent a peu à peu perdu l'esprit et s'est éloigné de l'Église. Elle explique comment cela s'est produit. Pendant toute l'adolescence de mon fils, je me suis inquiété. J'ai essayé de lui faire arrêter les jeux vidéo violents. J'en ai parlé à mon mari
Et je lui ai montré des articles dans l'Ensign et dans le journal qui mettaient en garde contre ces jeux. Mais mon mari trouvait que ce n'était pas grave. Il m'a dit que notre fils ne se droguait pas et que je devrais arrêter de m'inquiéter. Parfois, je cachais les manettes, mais mon mari les lui redonnait. Il est devenu plus facile pour moi de céder au lieu de me battre. J'ai vraiment le sentiment que les jeux vidéo rendent aussi dépendants que la drogue. Je ferai n'importe quoi pour que d'autres parents n'aient pas à vivre la même chose que moi. Frères et sœurs, si quelque chose met votre conjoint mal à l'aise, faites preuve de respect pour ce sentiment. Si vous choisissez la facilité, en ne disant et en ne faisant rien, vous êtes peut-être en train d'activer un comportement destructeur. Les parents peuvent éviter beaucoup de chagrin s'ils enseignent à leurs enfants à remettre à plus tard les relations amoureuses, jusqu'au moment où ils seront prêts pour le mariage. Il est dangereux d'avoir un petit ami ou une petite amie trop tôt. Quand on devient un couple, cela crée une intimité émotionnelle qui conduit trop souvent à l'intimité sexuelle. Satan connaît ce processus et l'utilise à son profit. Et il fait tout ce qu'il peut pour empêcher les jeunes gens de faire une mission et pour empêcher les mariages au temple. Il est vital que les parents aient le courage de parler franchement et d'intervenir avant que Satan y parvienne. Le président Packer enseignait, quand la morale est en jeu, nous avons à la fois le droit et l'obligation d'élever une voix d'avertissement. J'ai toujours été convaincu que rien de très bon n'arrive tard dans la nuit et que les jeunes doivent savoir à quelle heure ils sont censés rentrer à la maison. Les parents font preuve d'une grande sagesse lorsqu'ils restent éveillés et attendent le retour de leurs enfants. Les jeunes gens et les jeunes filles font de bien meilleurs choix quand ils savent que leurs parents les attendent pour savoir comment s'est passée leur soirée et pour leur souhaiter bonne nuit. Je tiens à lancer une mise en garde personnelle au sujet d'une pratique que l'on retrouve dans beaucoup de cultures. Il s'agit des nuits passées chez un copain ou une copine. Quand j'étais évêque, je me suis rendu compte que trop de jeunes enfreignaient la parole de sagesse ou la loi de chasteté pour la première fois lors d'une nuit passée chez un ami. Trop souvent, la première fois qu'ils étaient exposés à de la pornographie, et même la première fois qu'ils avaient affaire à la police, c'était alors qu'ils passaient la nuit à l'extérieur du foyer. La pression du groupe se fait davantage sentir lorsque nos enfants sont loin de notre influence et quand leurs défenses sont affaiblies tard le soir. S'il vous est déjà arrivé d'être mal à l'aise concernant une activité de nuit, n'ayez pas peur de suivre cette voie d'avertissement intérieur. Pensez toujours à prier lorsqu'il s'agit de protéger vos précieux enfants. Être des parents courageux ne signifie pas toujours dire non. Cela demande également du courage aux parents de dire oui aux recommandations des prophètes modernes. Les dirigeants de l'Église nous ont recommandé d'instaurer des traditions justes dans notre foyer. Réfléchissez à 5 pratiques fondamentales capables de fortifier nos jeunes. La prière en famille, l'étude des Écritures en famille, la soirée familiale, le dîner en famille et les entretiens individuels réguliers avec chaque enfant. Cela demande du courage de demander aux enfants d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire pour s'agenouiller en famille. Cela demande du courage d'éteindre la télévision et l'ordinateur pour guider votre famille dans la lecture quotidienne des Écritures. Cela demande du courage de refuser d'autres invitations le lundi soir pour réserver cette soirée à votre famille. Cela demande du courage et de la volonté d'éviter d'avoir un emploi du temps trop chargé afin que votre famille soit à la maison pour le dîner. L'une des manières les plus efficaces d'influencer nos fils ou nos filles est de nous entretenir avec eux en privé. En écoutant attentivement, nous pouvons découvrir les désirs de leur cœur, les aider à se fixer des buts justes, et aussi leur parler des impressions spirituelles que nous avons à leur sujet. Cela demande du courage de les écouter et de les conseiller. Essayez d'imaginer ce que la génération montante pourrait devenir si ces 4 traditions juste était suivi avec constance dans chaque foyer. Nos jeunes seraient comme l'armée des Lamans, invincibles. Être parent d'adolescents dans les derniers jours est vraiment un rôle intimidant. Satan et ses partisans s'efforcent d'abattre cette génération de jeunes. Le Seigneur compte sur des parents vaillants pour les élever. Parents, fortifiez-vous et prenez courage. Ne vous effrayez point. Je sais que Dieu entend vos prières et y répondra. Je témoigne que le Seigneur soutient et bénit les parents courageux. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Thank you, brethren.
Merci, frère. Le chœur et l'assemblée vont maintenant chanter « Je suis enfant de Dieu ». À la fin du cantique, Père G. Malm, Jairo Mazagardi et Mervyn B. Arnold, des 70, nous adresseront la parole. Après le discours de frère Arnold, nous entendrons M. Russell Ballard, du Collège des 12 apôtres.
This is the 180th semi-annual general conference.
Vous assistez à la 180e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
I am a child of God.
Je suis enfant de Dieu.
Indeed, a sacred heritage to be revered and cherished.
En fait, un noble héritage à chérir. Dans le centre-ville de Göteborg, en Suède, il y a un magnifique boulevard bordé de beaux arbres. Un jour, j'ai vu un trou dans l'un des troncs. Et en regardant par curiosité à l'intérieur, j'ai constaté que l'arbre était entièrement creux. Creux certainement, mais pas vide. Il était rempli de toutes sortes de détritus. J'étais étonné que l'arbre puisse encore tenir debout. J'ai donc levé les yeux et j'ai vu qu'un large cerclage métallique entourait la partie supérieure du tronc. Des câbles en acier étaient fixés au cerclage est solidement attaché au bâtiment voisin. De loin, il ressemblait aux autres arbres. Ce n'était qu'en regardant à l'intérieur qu'on s'apercevait qu'il était creux, au lieu d'avoir un tronc solide et fort. La fragilisation du tronc avait débuté petit à petit, de nombreuses années auparavant. Cela ne s'était pas produit du jour au lendemain. Cependant, tout comme un jeune arbre grandit petit à petit jusqu'à devenir robuste et vigoureux, nous aussi, nous pouvons progresser étape par étape et augmenter notre capacité de nous tenir fermes et bien remplis à l'intérieur, à la différence de l'arbre creux. C'est grâce au pouvoir guérisseur de l'expiation de Jésus-Christ que nous pouvons obtenir la force de nous tenir droits et forts et d'avoir l'âme remplie de lumière, de compréhension, de joie et d'amour. Car il les invite tous à venir à lui et à prendre part à sa bonté. Et il ne repousse aucun de ceux qui viennent à lui. Il nous promet, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Joseph S. Smith a dit au sujet de ce repos, je cite, « À mon avis, cela signifie entrer dans la connaissance et l'amour de Dieu, ayant foi en son dessein et en son plan, au point que nous savons que nous sommes sur le bon chemin et que nous ne recherchons pas autre chose. Ne sommes pas emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Nous savons que la doctrine est de Dieu et nous ne posons aucune question à qui que ce soit à son sujet. Qu'ils gardent leurs opinions, leurs idées et leurs erreurs, si cela leur chante. Celui qui est arrivé à un tel degré de foi en Dieu, que tout doute et toute crainte ont été chassés de lui, est entré dans le repos de Dieu. » Fin de citation. Trouver du repos pour notre âme signifie avoir la paix de l'esprit et du cœur, qui provient de la connaissance de la doctrine du Christ et de sa mise en pratique, par le service et l'aide que nous pouvons apporter aux autres en devenant les mains du Christ. La foi en Jésus-Christ et la mise en pratique de ses enseignements nous donne une espérance ferme qui devient une ancre solide pour notre âme. Nous pouvons devenir fermes et constants. Nous pouvons avoir une paix intérieure durable. Nous pouvons entrer dans le repos du Seigneur. Mais si nous nous détournons de la lumière et de la vérité, comme pour l'arbre, un sentiment de vide envahira les recoins les plus secrets de notre âme et nous risquons sans doute même de combler ce vide en recherchant des valeurs éphémères. Compte tenu de notre vie en tant qu'enfant d'esprit dans la vie prémortelle et de l'immortalité dans l'au-delà, cette vie terrestre n'est vraiment qu'un très court instant. Cependant, ce jour est un jour d'épreuve, mais c'est aussi un jour plein de possibilités lorsque nous choisissons de suivre son invitation à ne pas prodiguer les jours de notre épreuve. Les pensées que nous entretenons dans notre esprit, les sentiments que nous nourrissons dans notre cœur et les actes que nous choisissons de faire auront tous des conséquences déterminantes sur notre vie ici-bas et dans l'au-delà. Une bonne habitude, c'est de faire le point chaque jour pour continuer à voir les choses dans le contexte de l'éternité lorsque nous décidons et agissons, particulièrement si nous avons une certaine tendance à reporter au lendemain ce que nous savons devoir faire aujourd'hui. En chemin, l'Esprit nous aide dans nos choix grâce à son influence constante. Mais si nous choisissons d'agir en contradiction avec la lumière et la compréhension qui nous sont données, nous aurons mauvaise conscience, ce qui n'est évidemment pas agréable. Mais une mauvaise conscience est aussi une bénédiction, car elle nous rappelle immédiatement qu'il est temps de nous repentir. Lorsque nous sommes humbles et que nous avons le désir de bien faire, nous sommes vivement désireux de changer d'attitude, alors que les orgueilleux et celui qui cherche à se faire sa propre loi laisseront Satan les mener par le cou avec une corde de lin jusqu'à ce qu'il les lie à jamais avec ses fortes cordes, à moins que l'esprit de repentir pénètre en leur cœur. Suivre les mauvaises influences n'apporte jamais de sentiment de paix, tout simplement parce que la paix est un don de Dieu et ne nous est donnée que par l'intermédiaire de l'Esprit de Dieu. La méchanceté n'a jamais été le bonheur. Dans nos actions quotidiennes, ce sont souvent les choses petites et simples qui ont des conséquences durables. Ce que nous disons, ce que nous faisons et la façon dont nous décidons de réagir auront une influence non seulement sur nous, mais aussi sur notre entourage. Nous pouvons construire ou nous pouvons détruire. Une histoire qu'on raconte au sujet de ma grand-mère paternelle en est un exemple simple et positif. Elle avait envoyé un de ses jeunes enfants acheter des œufs. L'enfant à qui elle avait fait confiance était probablement rentré en marchant gaiement jusqu'à la maison. Mais la plupart des œufs étaient cassés quand il était arrivé. Une amie de la famille qui était présente avait conseillé à ma grand-mère de réprimander l'enfant pour sa mauvaise conduite. Au lieu de cela, grand-mère avait répondu avec calme et sagesse, « Non, cela ne réparera pas les œufs. Nous allons simplement utiliser ce que nous pouvons et nous allons faire des crêpes que nous pourrons manger tous ensemble. » Lorsque nous apprenons à traiter les choses petites et simples de la vie de tous les jours de façon sage et inspirée, il en découle une influence positive qui affermit l'harmonie dans notre âme et édifie et fortifie ceux qui nous entourent. Et il en est ainsi parce que tout ce qui nous invite à faire le bien est envoyé par le pouvoir et le don du Christ. C'est pourquoi vous pouvez savoir avec une connaissance parfaite que c'est de Dieu. L'arbre creux dont je vous ai parlé n'est plus debout depuis longtemps. Des jeunes ont mis des pétards dans son tronc et l'arbre a pris feu. On ne pouvait pas le sauver, on a dû l'abattre. Prenons garde aux choses petites ou grandes qui détruisent de l'intérieur. Elles peuvent avoir un effet explosif et causer la mort spirituelle. Concentrons-nous plutôt sur ce qui apporte une paix durable à notre esprit et à notre cœur. Alors notre assurance sera grande dans la présence de Dieu. La promesse d'entrer dans le repos du Seigneur, de recevoir le don de la paix, a beaucoup plus de valeur qu'une satisfaction temporaire et matérielle. C'est un don du ciel. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Il a le pouvoir de guérir et de fortifier l'âme. Il est Jésus-Christ dont je témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.
Un beau dimanche matin ensoleillé, j'ai invité ma petite fille, Vicky, qui a bientôt 8 ans, à se promener avec moi près d'un lac, qui est en fait un réservoir d'eau de notre jolie ville. C'était agréable de nous promener le long du ruisseau, en écoutant le murmure de l'eau, clair du cristal qui coulait le long de notre chemin. Celui-ci était bordé de beaux arbres verts et de fleurs parfumées. On entendait le chant des oiseaux. J'ai demandé à ma petite fille innocente et joyeuse aux yeux bleus où en était sa préparation au baptême. Elle a répondu par une question. « Grand-père, c'est quoi le péché ?» J'ai prié silencieusement pour être inspiré et j'ai essayé de répondre aussi simplement que je pouvais. « Le péché, c'est désobéir intentionnellement au commandement de Dieu. Cela rend triste notre Père Céleste. Et cela apporte de la souffrance, de la tristesse. Manifestement préoccupé, à me demander, et comment est-ce qu'il nous attrape? Avant tout, la question était signe de pureté. Mais elle témoignait d'une préoccupation d'éviter toute implication dans le péché. Pour qu'elle comprenne plus clairement, je me suis servi des éléments naturels autour de nous comme illustration. En continuant sur le chemin, nous avons vu le long d'une barrière de barbelés un pilier de pierre d'une taille considérable. C'était une construction lourde autour de laquelle poussaient des fleurs, des buissons et de petits arbres. Avec le temps, ces plantes allaient devenir plus grandes que le pilier lui-même. Je me suis souvenu qu'un peu plus loin sur le chemin, nous allions voir un autre pilier qui est petit à petit, de façon presque imperceptible, avait déjà été envahi par la végétation qui poussait autour. J'imagine qu'un pilier ne doit pas se rendre compte qu'en dépit de sa solidité, il pourrait être encerclé et détruit par des plantes fragiles. Le pilier pourrait penser, « Pas de problème, je suis grand et fort, et ces petites plantes ne me feront pas de mal. » Ainsi, tandis qu'un arbre voisin pousse, le pilier ne se rend pas compte d'abord. Puis il commence à apprécier l'ombre que l'arbre lui procure. Mais l'arbre continue de grandir. Il encercle le pilier de deux branches qui, au début, ont l'air fragiles, mais qui, avec le temps, s'entrelacent et entourent le pilier. Le pilier ne se rend pas compte toujours de ce qui se passe. Bientôt, au cours de notre promenade, nous avons le pilier de la morale de l'histoire. Il avait été arraché du sol. Ma petite fille, qui semblait impressionnée, m'a demandé, « Papy, c'est l'arbre du péché ?» Je lui ai expliqué que ce n'était qu'un symbole, un exemple de la façon dont le péché peut nous avoir. Je ne sais pas quel effet notre conversation aura sur elle, mais elle m'a fait penser aux nombreuses facettes du péché, à la façon dont il s'insinue dans notre vie, si nous le lui permettons. Nous devons être attentifs, car de petits choix peuvent avoir de grandes conséquences, comme aller se coucher tôt et se lever tôt, ont de grandes conséquences. Doctrine et Alliance 88-124 nous enseigne « Levez-vous tôt, afin que votre corps, votre esprit soient remplis de vigueur. Grâce à l'obéissance, les personnes qui vont se coucher tôt se réveillent reposées, le corps et l'esprit revigorés et bénis par le Seigneur. Ce qui peut sembler comme de peu d'importance, comme aller se coucher tard, ne pas prier pendant une journée, sauter un jeûne ou enfreindre le sabbat, les petits écarts de ce genre ne fera perdre petit à petit notre sensibilité, nous conduisant à faire des choses pires. Quand j'étais adolescent, mon couvre-feu était à 10 heures du soir. Aujourd'hui, c'est l'heure où certains sortent pour s'amuser. Cependant, nous savons que c'est la nuit que certaines des pires choses arrivent. C'est quand la nuit est tombée que certains jeunes vont dans des endroits inconvenants, où les paroles, la musique ne leur permettent pas d'avoir la compagnie du Saint-Esprit. Alors, dans ces circonstances, ils deviennent des proies faciles pour le péché. Souvent, on commence à devenir la proie du péché quand on choisit des amis dont les principes ne sont pas en accord avec l'Évangile, et que pour devenir populaire ou accepter de ses semblables, on fait des entorses aux principes et aux lois de l'Évangile, en suivant un chemin qui n'apportera à soi et à ses proches que souffrance et tristesse. Nous devons être attentifs à ne pas laisser le péché grandir autour de nous. Il y a des formes du péché partout. Même, par exemple, dans un ordinateur ou un téléphone portable, ces technologies sont utiles et peuvent nous être grandement profitables. Mais leur utilisation non convenable, par exemple, pour y perdre son temps à des jeux, des programmes qui vous poussent au plaisir charnel, ou pire encore, à de la pornographie, est destructrice. La pornographie détruit la personnalité et fait sombrer celui qui en consomme dans les sables mouvants la souillure dont on ne peut sortir qu'avec beaucoup d'aide. Ce monstre terrible cause de la douleur et la souffrance, à la fois à celui qui en consomme, à ses enfants innocents, à son conjoint, à son père et sa mère. Le fruit du plaisir charnel, l'amertume et la tristesse. Le fruit de l'obéissance et le sacrifice est la douceur et la joie éternelle. Il faut décider de suivre les principes à l'avance, pas quand vient la tentation. Nos critères doivent être « je ferai cela parce que c'est juste, que cela vient du Seigneur et que cela me rendra heureux. Je ne ferai pas cela parce que cela va m'éloigner de la vérité, du Seigneur et du bonheur éternel qu'il a promis à ceux qui sont fidèles et obéissants. » Comme le Père savait que nous ferions de mauvais choix, il a préparé dans son merveilleux plan d'amour un sauveur du monde pour expier les péchés de ceux qui se repentent, qui vont à lui, recherchant son aide, sa consolation, son pardon, et qui sont disposés à prendre sur eux son nom, Jésus-Christ. Si nous péchons, nous devons rapidement chercher de l'aide, parce que seuls, nous ne pouvons nous sortir du piège du péché, comme le pilier de l'histoire qui ne peut pas se libérer lui-même. Il faut que quelqu'un nous aide à nous débarrasser de l'étreinte mortelle. Les parents peuvent aider, et l'évêque est appelé par Dieu pour nous aider. C'est à lui que nous devons ouvrir notre cœur. Doctrine et Alliance 58, 42, 43 explique. Voici celui qui se repentit de ses péchés pardonné. Et moi, le Seigneur, je ne m'en souviens plus. C'est à ceci que vous saurez si un homme se repent de ses péchés. Voici, il le confessera et les délaissera. Quelques mois après notre promenade près du lac, ma petite fille a eu son entretien de baptême avec son évêque, son père. Après l'entretien, je lui ai demandé comment cela s'était passé. Elle m'a répondu presque dans un reproche. « Papy, un entretien est confidentiel, tu le sais. » J'espère, évêque, que vous prenez cette réponse au sérieux. Il semble que ma petite fille a beaucoup progressé, en très peu de temps, dans la compréhension des choses. Tout comme l'arbre que je décris a porté tristesse, douleur, souffrance, enfermement, un autre arbre peut apporter contraire. Il est mentionné dans 1 Néphi 8, 10 à 12. Il arriva que je vis un arbre dont le fruit était désirable pour rendre heureux. Il arriva que je m'avançais et que j'en mangeais du fruit. Et je vis qu'il était très doux, au-delà de tout ce que j'avais goûté auparavant. Oui, et je vis que son fruit était blanc, au point de dépasser en blancheur tout ce que j'avais jamais vu. Et comme j'en mangeais le fruit, il me remplit l'âme d'une joie extrêmement grande. Chers frères et sœurs, restez forts et faites de bons choix qui vous permettront de manger du fruit de l'arbre de vie. Si pour une raison quelconque, vous vous êtes égaré et que vous avez quitté le sentier, nous vous tendons la main et nous vous disons, venez, il y a de l'espoir, nous vous aimons et nous voulons vous aider à être heureux. Notre Père Céleste nous aime tant qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Jésus nous aime tellement qu'il a donné sa vie pour expier nos péchés. Que voulons-nous donner pour être purs et pour recevoir cette joie? Je rends ce témoignage au saint nom de Jésus-Christ. Amen.
Quand George Albert Smith était jeune, son grand-père décédé, George A. Smith, lui est apparu en rêve et lui a dit « Je voudrais savoir ce que tu as fait de mon nom. » Le président Smith a répondu « Je n'ai jamais rien fait de ton nom dont tu puisses avoir honte. » Chaque semaine, quand nous prenons la Sainte Cène, nous faisons alliance et nous promettons d'être disposés à prendre sur nous le nom du Christ, de toujours nous souvenir de lui et de garder ses commandements. Si nous sommes disposés à le faire, une merveilleuse bénédiction nous est promise, à savoir que nous aurons toujours son esprit avec nous. Tout comme George Albert Smith a dû rendre compte à son grand-père de ce qu'il avait fait de son nom, un jour nous devrons tous rendre compte à notre Sauveur Jésus-Christ de ce que nous avons fait du sien. L'importance d'avoir un nom respecté est mentionné dans les Proverbes où nous pouvons lire « La réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or, et la mémoire du juste est une bénédiction. » En réfléchissant à ces Écritures et à l'importance d'avoir un nom respecté, une foule de souvenirs m'est venue à l'esprit au sujet de la réputation et de l'héritage que mes parents nous ont légué à mes 4 frères, à mes 2 sœurs et à moi-même. Mes parents ne possédaient pas les richesses du monde, ils n'avaient ni argent ni or. Nous étions 9 enfants dans une maison comportant 2 chambres, une salle de bain et une véranda fermée à l'arrière où mes sœurs dormaient. Quand mes parents sont décédés, mes frères et sœurs et moi-même, nous nous sommes rassemblés pour partager leurs biens terrestres, qui étaient peu nombreux. Ma mère laissait quelques robes bien repassées, quelques meubles usagés et quelques autres objets personnels. Mon père laissait quelques outils de menuisier, de vieux fusils de chasse et pas grand-chose d'autre. Les seules choses qui avaient une valeur financière étaient une maison modeste et un petit compte d'épargne. Nous avons pleuré ensemble, reconnaissant, sachant qu'il nous avait légué quelque chose de beaucoup plus précieux que l'argent ou l'or. Ils avaient fait don de leur amour et de leur temps. Ils nous avaient souvent témoigné de la véracité de l'Évangile, témoignage que nous pouvons lire maintenant dans leurs précieux journaux intimes. C'est pas tant par des mots, mais plutôt par l'exemple qu'ils nous ont enseigné à travailler dur, à être honnête et à payer complètement la dîme. Ils nous ont aussi donné le désir de poursuivre des études, de faire une mission, et chose essentielle, de trouver un conjoint éternel avec qui nous pourrions nous marier au temple et persévérer jusqu'à la fin. Ils nous ont vraiment légué un nom respecté et nous en serons toujours reconnaissants. Lorsqu'ils ont reçu la bénédiction d'avoir 2 fils, le bien-aimé prophète Élaman et sa femme les ont appelés Léhi et Néphi. Élaman a dit à ses fils pourquoi ils avaient reçu le nom de 2 de leurs ancêtres qui avaient vécu sur terre près de 600 ans avant leur naissance. Il leur a dit, « Voici, mes fils, je vous ai donné le nom de nos premiers parents, Léhi et Néphi, et ceci je l'ai fait, afin que lorsque vous vous souvenez de vos noms, vous vous souveniez de leurs œuvres. Et lorsque vous vous souvenez de leurs œuvres, vous sachiez qu'il est dit et aussi écrit qu'elles étaient bonnes. C'est pourquoi, mes fils, je voudrais que vous fassiez ce qui est bien, afin que l'on puisse dire de vous et aussi écrire ce qui a été dit et écrit à leur sujet. Oui, afin que vous ayez ce don précieux de la vie éternelle. Frères et sœurs, quelle réputation aurons-nous dans 600 ans ? En parlant de la façon dont nous pouvons prendre sur nous le nom du Christ et ainsi protéger notre réputation, Moroni a enseigné, et en outre, je voudrais vous exhorter à venir au Christ et à vous saisir de tout bon don et à ne pas toucher au mauvais don ni à ce qui est impur. Oui, venez au Christ et soyez rendus parfaits en lui et refusez-vous toute impiété. Dans la brochure inspirée « Jeunes, soyez forts », nous pouvons lire « Le libre arbitre est un principe éternel accordé par Dieu qui entraîne la responsabilité morale des choix que vous faites. Nous sommes libres de choisir par nous-mêmes, mais nous ne sommes pas libres de choisir les conséquences de nos actes. Quand nous faisons un choix, nous récoltons les conséquences de ce choix. Peu après notre mariage, ma bien-aimée Devona m'a raconté comment elle avait appris dans sa jeunesse cet important point de doctrine que nous sommes libres de choisir, mais que nous ne sommes pas libres de choisir les conséquences de nos actes. Avec l'aide de ma fille Shelley, je vais relater l'expérience de Sir Arnold. Je cite, « Quand j'avais 15 ans, je trouvais souvent qu'il y avait trop de règles et de commandements. Je n'étais pas sûr qu'une adolescente normale qui aime s'amuser puisse profiter de la vie avec tant de restrictions. De plus, les nombreuses heures que je consacrais à travailler au ranch de mon père amputaient sérieusement le temps que je pouvais passer avec mes amis. Cet été-là, une de mes tâches était de m'assurer que les vaches qui broutaient dans le pâturage d'altitude ne franchissaient pas la clôture pour aller dans le champ de blé. Une vache qui broute du blé en herbe peut gonfler et mourir étouffée. Il y avait particulièrement une vache qui essayait toujours de passer la tête à travers la clôture. Un matin, je longeais la clôture à cheval pour surveiller le bétail. J'ai constaté que la vache avait traversé la clôture et qu'elle était allée dans le champ de blé. Consternée, j'ai vu qu'elle devait brouter depuis pas mal de temps, car elle était déjà toute gonflée et ressemblait à un ballon. Je me suis dit, vache stupide. Cette clôture était là pour te protéger, et tu l'as traversée. Et tu as mangé tellement de blé que ta vie est en danger. J'ai galopé jusqu'à la ferme pour aller chercher mon père, mais lorsque nous sommes arrivés, je l'ai trouvée morte sur le sol. J'étais triste à cause de la perte de cette vache. Nous lui avions donné un beau pâturage d'altitude à brouter et une clôture pour la protéger du danger du blé. Et cependant, elle avait sottement défoncé la clôture et causé sa propre mort. En réfléchissant au rôle de la clôture, je me suis rendu compte que c'était une protection, tout comme les commandements et les règles instaurées par mes parents. Les commandements et les règles étaient là pour mon bien. Je me suis rendu compte que l'obéissance aux commandements pouvait me sauver de la mort physique et spirituelle. Cette prise de conscience a été un tournant dans ma vie. Fin de citation. Sir Arnold a appris que notre Père Céleste aimant, bon et sage, nous a donné des commandements, non pas pour nous limiter, comme l'adversaire aimerait nous le faire croire, mais pour nous apporter des bénédictions et protéger notre réputation et notre héritage pour nos descendants, comme cela a été le cas pour Léhi et Néphi. Tout comme la vache a récolté les conséquences de son choix, chacun d'entre nous doit apprendre que l'herbe n'est jamais plus verte de l'autre côté de la clôture et ne le sera jamais parce que la méchanceté n'a jamais été le bonheur. Chacun de nous récoltera les conséquences de ses choix quand cette vie sera terminée. Les commandements sont clairs. Ce sont des protections, non des restrictions. Et les bénédictions de l'obéissance sont innombrables. Notre Père Céleste savait que nous commettrions tous des fautes. Je suis très reconnaissant pour l'expiation qui nous permet de nous repentir, de faire les corrections nécessaires pour être un avec le Sauveur et ressentir la douce paix du pardon. Tous les jours, notre Sauveur nous invite à purifier notre nom et à retourner en sa présence. Ses encouragements sont pleins d'amour et de tendresse. Imaginez avec moi l'étreinte du Sauveur, tandis que je lis ses propres mots. N'allez-vous pas maintenant revenir à moi et vous repentir de vos péchés et être convertis afin que je vous guérisse? Aujourd'hui, j'aimerais lancer à chacun d'entre vous le même défi que celui lancé par mes parents, dont on se souviendra pour toujours grâce à leur bonne réputation. Avant d'agir, représentez-vous le Sauveur debout à vos côtés et posez-vous la question. Est-ce que tu penserais, dirais ou ferais cela, sachant qu'il est là? Car il est effectivement là. Notre président Monson, bien-aimé, dont je témoigne qu'il est un prophète, cite souvent le verset d'Écriture suivant en parlant de notre Seigneur et Sauveur. « Car j'irai devant votre face, je serai à votre droite et à votre gauche, et mon esprit sera dans votre cœur. » Au jour glorieux où nous nous tiendrons devant notre Sauveur bien-aimé pour faire rapport de ce que nous avons fait de son nom, puissions-nous pouvoir déclarer « J'ai combattu le bon combat. » J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai honoré ton nom. Je témoigne que Jésus est le Christ et qu'il est réellement mort pour que nous puissions vivre. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Brothers and sisters, the advent of...
Mes frères et sœurs, l'arrivée de l'automne dans les montagnes rocheuses s'accompagne des couleurs magnifiques, des feuilles qui passent du vert aux oranges, rouges et jaunes flamboyants. Pendant l'automne, toute la nature est dans un état transitoire, où elle se prépare à la beauté froide et austère de l'hiver. L'automne est une période particulièrement passionnante pour les pêcheurs à la mouche, car c'est le moment où les truites sont poussées par une faim quasi insatiable, à se gaver afin de fortifier leur corps contre la rareté de la nourriture d'hiver. Le but du pêcheur à la mouche est d'attraper des truites par l'art de la tromperie. Le pêcher habile étudie le comportement des truites, le temps, le courant et les types d'insectes que les truites mangent, ainsi que le moment où ces insectes éclosent. Il fabrique souvent à la main les leurres dont il se sert. Il sait que ces insectes artificiels, sertis d'hameçons minuscules, doivent créer une illusion parfaite, parce que les truites détectent le moindre défaut et rejettent alors la mouche. Quelle excitation de voir une truite fendre la surface de l'eau, avaler la mouche et résister jusqu'à ce que le pêcheur la ramène épuisée avec le moulinet. L'épreuve réside dans l'affrontement de la connaissance et du savoir-faire du pêcheur, d'une part, et la noble truite. L'utilisation de leurres artificielles pour tromper et attraper un poisson est un exemple de la manière dont souvent Lucifer nous tente, nous trompe et essaye de nous prendre au piège. Comme le pêcheur à la mouche qui sait que les truites sont poussées par la faim, Lucifer connaît notre faim, c'est-à-dire nos faiblesses, et nous tente au moyen de leurres contrefaits qui, si nous y mordons, peuvent nous arracher au courant de la vie et nous amener sous son influence impitoyable. À la différence du pêcheur qui attrape le poisson puis le remet sain et sauf à l'eau, Lucifer ne nous relâche pas volontairement. Son but est de rendre ses victimes aussi malheureuses que lui. Léhi a dit, « Et parce qu'il était tombé du ciel et était devenu misérable à jamais, il chercha aussi le malheur de toute l'humanité. Je dis avec mes frères, j'ajoute ma voix aujourd'hui à celle des frères, que Lucifer est une intelligence habile et rusée. L'une des principales méthodes qu'il emploie contre nous fait appel à sa capacité de mentir et de tromper pour nous convaincre que le mal est bien et que le bien est mal. Dès le tout début, lors du grand conseil dans les cieux, Satan a cherché à détruire le libre arbitre de l'homme que le Seigneur Dieu lui avait donné. Et il devint Satan, oui, le diable, le père de tous les mensonges, pour tromper, pour aveugler les hommes et pour les mener captifs à sa volonté. La bataille pour le libre arbitre que Dieu a donné à l'homme se poursuit aujourd'hui. Satan et ses laquais ont disposé leurs appâts tout autour de nous dans l'espoir que nous faiblirons et mordrons à ses mouches afin qu'il puisse nous emmener sur sa berge par ses contrefaçons. Il se sert de la dépendance pour nous priver du libre arbitre. D'après le dictionnaire, la dépendance signifie soumission à quelque chose, c'est-à-dire l'abandon du libre arbitre et l'asservissement à une substance ou à un comportement destructeur. Les chercheurs nous disent qu'il y a dans notre cerveau un mécanisme appelé centre du plaisir. Il emmène la personne dépendante à abandonner ce qu'elle sait être bien. Et quand cela se produit, l'hameçon est avalé et Lucifer prend le pouvoir. Quand ces choses se passent, le crochet est bien armé et Satan prend le contrôle. Satan sait comment nous exploiter, comment nous prendre au piège par des substances artificielles et des comportements de recherche, de plaisir temporaire. J'ai observé l'impact qu'ont sur les membres de la famille les efforts de quelqu'un pour retrouver le contrôle, se libérer de l'usage de substances destructrices et de la dépendance et retrouver l'estime de soi et son indépendance. Parmi les drogues qui entraînent le plus la dépendance, peuvent prendre possession du cerveau et priver l'individu de son libre arbitre, il y a la nicotine, les opioïdes, l'héroïne, la morphine et autres analgésiques, les tranquillisants, la cocaïne, l'alcool, la marijuana et les méthamphétamines. Je suis reconnaissant aux médecins qui sont formés pour prescrire les bons médicaments pour soulager la douleur. Malheureusement, trop de gens aujourd'hui, y compris certains de nos membres, deviennent dépendants des médicaments et en font mauvais usage. Lucifer, le père de tous les mensonges, le sait et use de son influence pour priver du libre arbitre et prendre dans ses chaînes terribles ces personnes. Récemment, j'ai parlé avec une sœur dans l'unité psychiatrique d'un hôpital de la région. Elle m'a raconté son parcours douloureux qui l'a mené de la pleine santé mentale et physique, d'un mariage et d'une famille merveilleuse, à la maladie mentale, à une santé en ruine et à l'éclatement de sa famille. Tout cela a commencé avec la prescription d'antidouleurs. 2 ans avant notre conversation, elle s'était blessée au dos dans un accident de voiture. Son médecin lui avait prescrit un médicament pour soulager la douleur, quasi insupportable, pensant qu'il lui en fallait davantage. Elle fit de fausses ordonnances et finit par acheter de l'héroïne. Cela entraîna son arrestation et son incarcération. Son obsession pour la drogue fut à l'origine de l'échec de son mariage. Son mari divorça et conserva la garde des enfants. Elle me dit qu'en plus d'engourdir la douleur, la drogue lui procurait une brève mais forte sensation d'euphorie et de bien-être. Mais chaque dose de drogue ne durait que quelques heures, et à chacune, la durée du soulagement semblait diminuer. Elle commença à prendre de plus en plus de drogue et se retrouva prise dans le cercle vicieux de la dépendance. La drogue devint sa vie. Le soir précédent notre conversation, elle avait essayé de se suicider. Elle me dit qu'elle ne pouvait plus supporter la souffrance physique, émotionnelle et spirituelle. Elle se sentait prise au piège, dans une situation sans issue, sans espoir. Le problème de cette sœur avec le mauvais usage des médicaments et la consommation de drogue n'est pas unique. Il se produit partout autour de nous. Dans certains endroits, il meurt plus de gens du mauvais usage des médicaments que d'accidents de la route. Mes frères et sœurs, abstenez-vous de toute substance qui peut vous prendre au piège. Même une seule fois qu'on respire de la drogue ou une pilule ou un seul verre d'alcool peut entraîner la dépendance. Un alcoolique sur la voie de la guérison m'a dit qu'un seul verre fait la différence entre la dépendance et la sobriété. Satan le sait. Ne laissez pas vous attraper avec ces leurres artificielles qui peuvent vite devenir une dépendance. Toutefois, mes frères et sœurs, ne vous méprenez pas sur mes propos. Je ne mets pas en question les médicaments prescrits pour les gens qui ont une maladie curable ou de grandes douleurs physiques. Ils constituent une véritable bénédiction. Ce que je dis, c'est que nous devons suivre soigneusement les doses prescrites par les médecins. Et nous devons garder ces médicaments en lieu sûr, hors de portée des enfants et de qui que ce soit. Nous sommes aussi très préoccupés par certains comportements pernicieux et vecteurs de dépendance, comme les jeux d'argent et le fléau de la pornographie, qui sont si destructeurs et si répandus dans notre société. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, toute dépendance amène à se soumettre à quelque chose et ainsi à renoncer au libre arbitre. On peut donc ajouter les jeux vidéo et les messages textes sur les téléphones portables. Certains gamers disent passer jusqu'à 18 heures par jour à faire des jeux vidéo, négligeant tous les autres aspects de leur vie. Les messages textes sur les téléphones portables peuvent devenir une dépendance qui met fin à l'importante communication humaine interpersonnelle. Il n'y a pas si longtemps, un évêque m'a dit que deux de ces jeunes étaient debout côte à côte et s'envoyaient des messages textes au lieu de se parler. La recherche médicale décrit la dépendance comme une maladie du cerveau. C'est vrai, mais je crois qu'une fois que Satan a quelqu'un dans ses griffes, cela devient aussi une maladie de l'esprit. Mais quel que soit le cycle de dépendance dans lequel on est pris, il y a toujours de l'espoir. Le prophète Léhi a enseigné à ses fils cette vérité éternelle. C'est pourquoi les hommes sont libres selon la chair, et tout ce qui est nécessaire à l'homme leur est donné. Et ils sont libres de choisir la liberté et la vie éternelle par l'intermédiaire du grand médiateur de tous les hommes, ou de choisir la captivité et la mort, selon la captivité et le pouvoir du diable. Si quelqu'un qui est dépendant a le désir de s'en sortir, il y a toujours une issue vers la liberté spirituelle, un moyen d'échapper à la servitude, un moyen éprouvé. Cela commence par la prière, la communication sincère, fervente et constante avec le Créateur de notre esprit et de notre corps, notre Père Céleste. C'est le même principe pour se débarrasser d'une mauvaise habitude ou de nous repentir d'un péché quelconque. La formule permettant d'obtenir la transformation de notre cœur, de notre corps, de notre intellect et de notre esprit se trouve dans les Écritures. Le prophète Mormon nous a recommandé. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, priez le Père de toute l'énergie de votre cœur, afin d'être rempli de cet amour, afin de devenir les fils de Dieu, afin que nous soyons purifiés comme il est pur. Cette écriture et beaucoup d'autres nous témoignent qu'il y a de l'espoir pour les personnes tombées dans la dépendance. Et cet espoir nous est donné par l'expiation de Jésus-Christ. Et si nous nous humilions devant Dieu, en le priant avec ferveur de nous délivrer de la servitude, de la dépendance et en lui offrant toute notre âme, les dirigeants de la prêtrise peuvent aider les personnes dépendantes qui leur demandent conseil. Si nécessaire, ils peuvent les adresser à des thérapeutes qualifiés et agréés et aux services familiaux de l'Église. Programme de traitement de la dépendance adapté aux 12 étapes des alcooliques anonymes est facilement disponible auprès des services familiaux de l'Église. Aux personnes aux prises avec la dépendance, que ce soit personnellement ou dans leur famille, je répète que la prière fervente est la clé pour obtenir la force spirituelle de trouver la paix et vaincre le manque créé par la dépendance. Notre Père Céleste aime tous ses enfants. Alors, remerciez-le de sa bonté, de son amour. Exprimez une foi sincère en lui. Demandez-lui la force de vaincre votre dépendance. Oubliez votre orgueil et soumettez votre vie et votre cœur à votre Père Céleste. Demandez-lui d'être rempli du pouvoir de l'amour pur de Jésus-Christ. Peut-être devrez-vous le faire de nombreuses fois, mais je vous témoigne que votre corps, votre intellect et votre esprit peuvent être transformés, purifiés et guéris, et que vous serez libérés. Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Parce que notre but est de devenir plus semblable à notre Sauveur et finalement de nous qualifier pour vivre avec notre Père Céleste. Nous avons tous besoin de connaître le grand changement de cœur décrit par le prophète Alma dans le livre de Mormon. Notre amour pour notre Père Céleste et pour le Seigneur Jésus-Christ doit se refléter dans nos choix et nos actes quotidiens. Ils ont promis paix, joie et bonheur à ceux qui respectent leurs commandements. Mes frères et sœurs, puissions-nous tous déceler les mouches artificielles qui nous sont présentées par la contrefaçon du pécheur d'homme, Lucifer. Puissions-nous avoir la sagesse et la perception spirituelle nécessaire pour discerner et refuser ces nombreuses offres dangereuses. Et pour ceux d'entre vous qui sont devenus victimes d'une dépendance, il y a de l'espoir parce que Dieu aime tous ses enfants. Et parce que l'expiation et l'amour du Seigneur Jésus-Christ rendent tout possible. J'ai vu la merveilleuse bénédiction de la guérison qui peut libérer des chaînes de la dépendance. Le Seigneur est notre berger, et nous ne manquerons de rien si nous mettons notre confiance dans le pouvoir de l'expiation. Je sais que le Seigneur peut libérer et qu'il libérera de leur servitude les personnes qui se trouvent dans la dépendance. Car comme l'a proclamé l'apôtre Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Je prie, mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi, que pour ceux qui luttent avec ces défis, qu'à ce moment de leur vie, cela qu'ils puissent être bénis, c'est là mon humble prière, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Merci frères, à la fin de cette conférence, nous remercions le chœur du tabernacle, le chœur familial de Sandy et de Draper en Utah, et le chœur de la prêtrise du Centre de formation des missionnaires de Provo, ainsi que leurs directeurs et organistes, de la belle musique inspirante qu'ils ont interprétée. Nous remercions également toutes les personnes qui ont participé de différentes manières à ces sessions. Le dernier orateur de cette session sera Thomas S. Monson, notre prophète bien-aimé. Après le discours du président Monson, le chœur chantera le cantique de clôture. Que nos voix s'unissent. Après le cantique, H. David Burton, évêque président de l'Église, fera la prière de clôture. Cette conférence prendra alors fin.
This has been a great session.
Ça a été une belle session. J'ai appris une vérité. Il me faut encore faire beaucoup avant de dormir et des promesses à tenir. Mes frères et sœurs, mon cœur déborde d'émotion à la fin de cette magnifique conférence générale de l'Église. Nous avons été nourris spirituellement en écoutant les conseils et les témoignages des participants à chaque session. Je suis certain que je me fais le porte-parole de tous les membres de partout en exprimant ma profonde reconnaissance pour les vérités qui ont été enseignées. Nous pourrions reprendre les paroles du sermon du grand roi Benjamin que l'on trouve dans le livre de Mormon. Ils s'écrièrent d'une seule voix disant « Oui, nous croyons toutes les paroles que tu nous as dites. Et aussi, nous savons qu'elles sont sûres et vraies à cause de l'Esprit du Seigneur omnipotent. » J'espère que nous prendrons le temps de lire les discours de conférence qui seront imprimés dans le numéro de novembre de l'Ensign et du Liaona, car ils méritent que nous les étudions attentivement. Quelle bénédiction d'avoir pu nous réunir ici, dans ce magnifique centre de conférence, dans la paix, le confort et la sécurité. Jamais la conférence n'a été aussi diffusée à travers les continents et les océans aux gens de partout. Bien que nous soyons très éloignés de beaucoup d'entre vous, nous ressentons votre esprit et nous vous exprimons notre amour et nos remerciements. À nos frères qui ont été relevés à cette conférence, j'exprime notre sincère gratitude à tous pour leurs nombreuses années de service dévouées. Innombrables sont les personnes qui ont bénéficié de votre contribution à l'œuvre du Seigneur. Le chœur du tabernacle et les autres chœurs qui ont participé aux sessions ont produit une musique réellement céleste qui a mis en relief et a embelli tout le reste. Je vous remercie de nous avoir fait profiter de vos talents musicaux. J'aime et j'estime mes fidèles conseillers, Henry B. Eyring, éditeur F. Urdorf. Ils sont réellement des hommes dotés de sagesse et de compréhension, et leur service est d'une valeur inestimable. Je ne pourrais pas faire tout ce qui est attendu de moi sans leur soutien et leur aide. J'aime et j'admire mes frères du Collège des 12 apôtres et tous ceux qui sont dans les collèges des 70 et dans l'épiscopat président. Ils servent avec altruisme et efficacité. De même, j'exprime ma reconnaissance aux femmes et aux hommes qui servent comme officiers généraux d'auxiliaires. Comme nous sommes bénis d'avoir l'évangile rétabli de Jésus-Christ, il nous donne des réponses aux questions. D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Et où irons-nous quand nous quitterons cette vie? Il donne un sens, une raison d'être et de l'espoir à notre vie. Nous vivons dans un monde troublé, un monde où il y a beaucoup de difficultés. Nous sommes sur cette terre pour faire face à nos difficultés personnelles de notre mieux, pour en tirer des leçons et les surmonter. Nous devons persévérer jusqu'à la fin, car notre but est la vie éternelle dans la présence de notre Père céleste. Il nous aime. Il n'est rien qu'il ne veuille tant que de nous voir atteindre ce but. Il nous aidera et nous bénira si nous faisons appel à lui dans nos prières, si nous étudions sa parole et si nous obéissons à ses commandements. C'est en cela que réside la sécurité. C'est en cela que réside la paix. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Je vous remercie de vos prières à mon intention et à l'intention de toutes les autorités générales. Nous vous sommes profondément reconnaissants de tout ce que vous faites pour édifier le royaume de Dieu sur terre. Que les bénédictions du ciel vous soient accordées. Que votre foyer soit rempli d'amour, de courtoisie et de l'Esprit du Seigneur. Puissiez-vous vous nourrir constamment de votre témoignage de l'Évangile, afin qu'il soit une protection contre les tourments de Satan. La conférence est maintenant terminée. Soyons prudents sur le chemin du retour. Que l'esprit que nous avons ressenti ici soit et demeure avec nous, tandis que nous vaquons à nos occupations quotidiennes. Puissions-nous faire preuve de plus de gentillesse les uns vers les autres. Puissions-nous être trouvés constamment en train de faire l'œuvre du Seigneur. Je vous aime, je prie pour vous. Je vous dis au revoir et à dans 6 mois. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Thank you.
Most Holy Father,
Très Saint Père, le moment est venu de t'adresser une prière de clôture à la fin de cette conférence. Père, nous avons tant aimé cette conférence. Nous sommes reconnaissants, Père, et notre cœur se réjouit de cette occasion qui nous est donnée de te prier, de t'exprimer notre reconnaissance d'avoir reçu ces conseils. Nous te remercions de la possibilité d'être assis aux pieds de prophètes, voyants et révélateurs, reconnaissant ceux qui ont été appelés, mis à part. Nous te prions de nous bénir afin que nous ayons appris de cette expérience. Nous te exprimons notre reconnaissance pour ceux qui nous ont précédés. Nous remercions du don de ton Fils pour le rétablissement de ton évangile. En cette occasion sacrée, Père très saint, alors que nous allons nous séparer pour aller dans nos directions diverses, dans le monde entier, nous te demandons de nous accompagner par ta paix et que nous permette d'arriver sains et saufs à notre destination. Puissions-nous nous réjouir en pensant à ce qui s'est produit ici et qui va changer notre vie. Puissions-nous nous reconsacrer à toi. Dans quelques mois, bref, nous nous retrouverons encore ici. Fais qu'entre-temps, tu continues de bénir notre première présidence que nous aimons, les membres des 12 et tous ceux qui sont si engagés. Veuille les bénir, leur donner de la force, la santé, les aider à rester sensibles aux besoins de ceux pour qui ils œuvrent. Nous demandons de nous bénir et te remercions de tout ce qui s'est produit ici pendant ces quelques jours. C'est notre prière, au nom de notre Rédempteur, ton Fils, notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen.
This has been a broadcast of the 180th semi-annual general conference.
Vous venez d'assister à une session de la 140e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.